Et tout de suite, on se dirige vers le 18 avenue Jules Ferry, à deux pas de la fac de droit, où se trouvent les archives de la ville de Rennes. Le bâtiment inauguré par le maire Henri Fréville en 1968 conserve aujourd'hui près de 6 siècles d'histoire accessible au public. Et pour découvrir l'institution, Maureen Suignard est allée à la rencontre de Violaine Tissier-Le-Nénaon, la directrice adjointe des archives de Rennes et responsable de l'action culturelle aux archives. On écoute ce reportage.
Les archives, en tant que telles, elles existent depuis le moment, finalement, où il y a une organisation municipale. Puisque la vocation des archives, c'est finalement de conserver trace de l'activité politique et administrative de la communauté qui gère la ville. Alors, dès le 15e siècle, on a une organisation municipale à Rennes. Donc, en fait, on a des archives depuis cette époque-là. Mais évidemment, l'organisation des archives au niveau national, puisque c'est finalement une organisation pyramidale, hein, il y a des archives nationales, régionales, départementales et municipales, eh bien cette organisation-là, elle date de la Révolution française. Et c'est à ce moment-là, véritablement, qu'on a une institution, une organisation des archives en France, avec des services qui vont se constituer, et une obligation, petit à petit, de conserver la trace de façon un petit peu plus scientifique, on va dire, et organisée de l'histoire des institutions.
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche de la ville? Pourquoi est-ce qu'elle conserve de tels documents? Dans quel but?
Pour la ville de Rennes en propre, il y a finalement, j'allais dire, deux grands objectifs à conserver ces archives. D'abord, effectivement, la possibilité de faire l'histoire de cette ville. À partir du moment où on garde les archives et une trace de l'activité des services de la ville, eh bien, on aura la matière historique pour pouvoir ensuite dire comment les choses se sont passées, avec preuve à l'appui, j'ai envie de dire. La deuxième chose qui est très importante, c'est que les archives, comme je vous disais, elles font des droits, c'est-à-dire elles gardent la trace des décisions prises, des événements importants de la vie des gens aussi, puisque vous savez sans doute que c'est à la mairie qu'on garde l'état civil, et donc par exemple ça c'est une collection qui est évidemment indispensable à chacun des citoyens. Donc ça vient aussi fonder les droits des citoyens, et c'est très important cette relation aux administrés, puisqu'on est un service public ouvert au public, et que chacun peut venir aux archives pour justement rechercher des informations, aussi bien d'ailleurs pour son parcours personnel que des informations administratives. Tout ça, ce sont des choses qui sont à disposition, en fait, des Rennais, pour finalement faciliter et garantir une transparence dans leur relation avec l'administration.
Vous venez nous expliquer pourquoi vous conserviez des archives. Comment est-ce que vous constituez ces archives, et quels sont les types de documents que vous recueillez?
La ville, elle est administrée par des services et évidemment pilotée par une équipe d'élus. Tout ce personnel là qui travaille au service de la ville a des bureaux éparpillés sur le territoire, chacun travaillant dans son bureau, faisant des dossiers finalement, papier ou électronique, va avoir au bout d'un moment dans son bureau des dossiers qui ne lui serviront plus dans le cadre, j'allais dire, courant de son activité. Les services qui ont ces dossiers, qui ont dépassé ce qu'on appelle une durée d'utilité administrative, vont se poser la question de savoir est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les élimine, puisque en fait on ne garde pas tout, hein, évidemment on trie et on élimine une bonne partie des documents produits par l'administration. Donc on fait ça en fonction de la loi, hein. Il y a toutes sortes de réglementations en fait qui nous permettent de savoir quels documents sont à conserver, quels documents sont à éliminer. 80% de notre fonds, en gros, c'est des archives publiques qui sont donc issues des services. Mais il y a une partie qui sont des archives privées. les Rennais peuvent donner leurs archives. C'est important de le savoir. C'est important aussi de savoir qu'on va pas forcément tout prendre. On pourrait pas prendre les archives de tout le monde. Mmh. En revanche, c'est vrai qu'on prend beaucoup d'archives privées qui viennent finalement nous parler de la ville de façon très différente. Et c'est très important d'avoir des fonds privés. D'abord parce que certains fonds, de façon automatique, n'arrivent pas chez nous. Par exemple, les fonds d'association, les fonds d'architectes des archives privées en tant que telles. Donc là, elles peuvent évidemment nous être données. Il y a des fonds particuliers aussi. Des gens qui vont nous donner des archives familiales ou des archives politiques aussi. C'est le cas, par exemple, d'Edmond Hervé qui nous a donné ses archives, qui a été donc longtemps maire de Rennes, mais qui avait aussi des archives privées à nous donner. Là, c'est très intéressant parce que viennent se croiser, si vous voulez, l'histoire administrative et puis l'histoire individuelle. Et c'est pour ça qu'on a aussi privilégié la collecte de témoignages parce que, alors là, on touche vraiment à l'histoire des gens, à l'histoire des Rennais. Et ça donne un éclairage vraiment très différent, évidemment beaucoup plus sensible. Donc voilà, les archives, c'est un peu des deux. Évidemment, c'est en grande partie des archives publiques, mais c'est aussi, et c'est très important, aussi des archives privées. Et donc, là commence le travail des archivistes.
Donc vous venez de parler des archivistes. Quelles sont leurs missions au sein de l'institution des archives de la ville de Rennes?
Donc, il y a 5 missions aux archives. On collecte, on classe, on conserve, on communique et on valorise. Alors, les premières missions, on en a parlé. La conservation, c'est très important parce que c'est une mission à part entière, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre en boîte. Il faut faire en sorte que ces documents-là, ils soient conservés dans des conditions qui assurent leur pérennité. Nous, on est des passeurs. L'idée, c'est vraiment de faire passer ce patrimoine-là aux générations futures et que les documents du XVe siècle, comme les documents de 2015, puissent être consultés dans 100 ans, 200 ans, 500 ans. Donc, on a ce rôle de conservation. Ensuite, on communique au public. Évidemment, l'objectif principal de tout ce travail qui est fait un peu dans l'ombre, eh bien, c'est évidemment de mettre à disposition les documents pour le public. On a pour ça une salle de lecture qui est ouverte tous les jours. Les gens peuvent consulter les documents, évidemment, gratuitement. C'est un service public. Et puis, on a une autre mission, qui est une mission de valorisation, j'ai envie de dire, de découverte de ce patrimoine pour le grand public. Et ça, c'est plus ce que je fais, moi, aux archives, c'est-à-dire l'idée d'essayer de que les Rennais s'approprient, finalement, cette histoire, ces documents-là, à travers toutes sortes d'actions qui sont vraiment là pour parler de l'histoire de la ville à tout à chacun. Et donc, on fait des expositions, des conférences dans le cadre des Jeudis des Archives. On fait aussi, évidemment, tout un travail en direction des scolaires, puisqu'on a un service éducatif qui fonctionne vraiment bien. L'idée, c'est vraiment de mettre les enfants un peu en posture d'apprenti historien face aux documents originaux. Les confronter vraiment à l'original, c'est important. Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte de ce que c'est que le patrimoine, en fait. Être face à un document unique qui, s'il disparaît, n'existe plus, c'est très différent que d'être en face d'un manuel scolaire qui a sa copie, qu'on peut photocopier, etc. Autour de sujets, évidemment, qui traitent à l'histoire de la ville et plus généralement à l'histoire de France. Parce qu'en fait, Rennes, évidemment, a traversé toutes les périodes historiques importantes qui sont traitées dans le cadre des programmes scolaires. Et donc, évidemment, on peut toujours rattacher ça au programme scolaire. Et puis, on fait des projets, j'allais dire, un peu plus spécifiques en direction de quartiers, qui sont, par exemple, ou en direction de populations qui sont éventuellement un peu éloignées des archives. C'est le cas en particulier des personnes âgées. Et ça, c'est un public qui est formidable parce que très intéressé par les questions d'histoire. C'est souvent des publics qui sont très sensibles à l'écrit parce que c'est de leur génération, en fait. Et puis, sensibles aussi à transmettre des souvenirs, etc. Donc, depuis déjà plusieurs années, on couple souvent nos projets de médiation en direction des publics comme ça, porteurs d'histoire, si vous voulez, avec une collecte de témoignages.
On sait maintenant que le numérique a pris une place très importante dans toutes les sphères de la société. Quelle place le numérique a-t-il pris au sein de l'institution des archives dans la ville de Rennes et plus globalement dans le monde des archives?
Alors quand les ordinateurs ont commencé à investir les bureaux, très vite on a pensé qu'on arriverait à une époque où du zéro papier et que il fallait qu'on se prépare très vite à ça. Alors finalement ça n'est pas arrivé, je pense que ça n'arrivera pas parce que le papier à bien des égards c'est encore la majorité des archives qu'on reçoit. En revanche, c'est certain que sont arrivés en tout cas en masse quand même maintenant les archives électroniques et que c'est un peu l'enjeu si vous voulez des années à venir pour notre métier. Mais on a toujours reçu finalement des supports très variés. Si on regarde sur le siècle dernier, on a eu des microfilms, évidemment des photos d'abord, on a eu des plaques de verre, des photos argentiques, aujourd'hui on en est à la photo numérique, mais finalement on a eu beaucoup de supports. Des diapositives, des négatifs de toutes sortes. Aujourd'hui, évidemment, on est dans des supports immatériels. Ce que change un peu l'archivage électronique, c'est que c'est de la masse. Tous les supports qu'on intégrait dans nos fonds jusque-là, que ce soit des supports magnétiques ou argentiques, c'était quand même un petit peu la marge, c'était en petite quantité. Aujourd'hui, plus ça va et plus effectivement on dématérialise même les procédures, on a tous des logiciels métiers, etc. Et il s'agit de pas perdre toutes ces informations. Il s'agit de s'adapter donc à toutes les façons de travailler, mais aussi à s'adapter à des technologies qui sont mouvantes, qui changent sans arrêt, avec le risque, si vous voulez, si on met sur un support les données, que le support ne soit plus lisible à terme. C'est ce qui nous est arrivé au tout début, quand on a mis ça sur disquette, puis qu'on s'est rendu compte qu'on avait des machines qui avaient même plus les moyens de lire les disquettes. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, les technologies évoluent aussi beaucoup, et donc nous, il faut qu'on pense aussi à transférer les données sur des supports nouveaux. Ce qui demande une gestion vraiment importante. On fait une distinction entre l'archivage électronique et la numérisation. L'archivage électronique, c'est quand les données, elles sont électroniques natives. C'est-à-dire, vous n'en avez pas de version papier, en fait, à l'origine. Quand vous faites un document Word, vous pouvez le copier. Mais l'original, c'est un document électronique. La numérisation, c'est autre chose. La numérisation, elle va avoir en gros deux vocations chez nous. D'abord, assurer une communication plus facile, plus aisée et plus rapide au public et accessible via notre site internet. Il y a aussi un enjeu de conservation. La numérisation, ça permet de garder bien au chaud dans les magasins les documents fragiles. Une fois qu'ils sont numérisés, on ne les sort plus. Les registres paroissiaux, en fait, qui sont des registres très anciens, hein, puisqu'on en a, c'est tous les registres qui sont tenus par les curés avant la Révolution et qui permettent justement de faire ces généalogies, ce sont des registres très abîmés. Ils sont très fragilisés. C'est vrai que quand on a décidé de les numériser, c'était autant finalement pour communiquer au public que pour protéger les originaux. On peut numériser aussi pour des raisons de conservation, par exemple, justement on parlait de supports qui sont difficilement pérennes, les bandes magnétiques par exemple. On a longtemps enregistré les discours du maire. Les discours de Fréville, les discours d'Hervé, elles sont sur des bandes magnétiques. Aujourd'hui, d'abord, plus personne n'a de magnéto pour lire des bandes magnétiques, c'est les cassettes. Donc, on n'a plus les moyens de les lire, et puis surtout, elles s'abîment énormément. Dans la numérisation, on a aussi numérisé toutes ces bandes, par exemple, pour permettre finalement leur consultation, toujours, et être sûr de conserver la trace de ces discours, de ces voix, même si le support d'origine finit par se dégrader, quoi. Et voilà, enfin...